Vous écoutez France Culture.
Cette fois-ci, je parle, mais je ne parle pas très fort encore. Mais je peux parler comme ça si je veux, tu comprends?
Peinture fraîche.
Oui, parce que alors là, il y a du volume. Et comment, hein, le volume? On l'entend, le volume. Arrête.
La couleur. La couleur seule.
Dialogue méditerranéen à Saint-Tropez. Avec quatre artistes, Laurent Grasso, Stéphane Pencréache, Myriam Bouderbala, Leïla Muréouid. Parcours artistique de l'été culturel 2007 jusqu'au 15 octobre. Saint-Tropez, qui se veut ville de culture et d'art, se transforme, le temps d'un été, en lieu d'exposition. Pour la deuxième année consécutive, Saint-Tropez expose sculptures, installations, peintures, vidéos, photographies dans la ville, dans la citadelle et même sur la mer, autour d'un thème, dialogue méditerranéen. C'est un appel. C'est une redécouverte des rives méditerranéennes en invitant des artistes accourus de 16 pays. Artistes français comme Ange Letchia, Kader Atia. Artistes d'origine syrienne comme Leïla Muréouid, vivant en France. Ou Myriam Bouderbala, d'origine tunisienne et vivant à Paris. Artistes qui se rencontrent, artistes qui se mesurent à eux-mêmes au mythe intemporel lié aux rives de la Méditerranée, qui se mesurent aussi aux grands aînés comme Pierre Soulages ou Louise Bourgeois. Cela donne une confrontation qui éclaire sur les différences, les tabous, les risques pour chacune d'elles, entre autres, la peur pour chacune d'elles, peur de dire, peur de représenter, peur de montrer ne serait-ce que la sensualité de la femme. Berceau culturel, la Méditerranée est encore une mer qui dévoile difficilement, à travers l'art, le cynisme du pouvoir. Il est toujours aussi difficile d'être, tout d'abord, un citoyen, un témoin et peut-être un artiste. Stéphane Pencréache, est-ce que la peinture, la vôtre, supporte la Méditerranée et surtout Saint-Tropez?
Alors, elle supporte très bien la Méditerranée parce que moi j'ai grandi à Sète. Donc, comme j'ai grandi à Sète, d'ailleurs j'y retourne très souvent, j'ai même un atelier là-bas. Donc, je suis profondément, enfin une partie de moi est profondément méditerranéen. Maintenant, en ce qui concerne Saint-Tropez, je ne sais pas, c'était probablement... comme disait Marcel Aimé, qu'est-ce qui vous étonne le plus là-bas, c'est de m'y trouver, quoi, finalement. Donc, c'était très bien. Je ne sais pas si j'y retournerai. C'est pas ma Méditerranée, Saint-Tropez, en tout cas.
Avant de parler de votre travail et de la peinture, vous avez accepté Saint-Tropez et donc ce thème, dialogue méditerranéen. Qu'est-ce que cela vous inspire d'être auprès d'artistes marocains, syrien, libanais, égyptien, c'est-à-dire qui apporte quand même autre chose.
Bien sûr, mais ça c'est, ça me semble aller dans le sens de mon travail et puis même de ma vie parce que c'est personnel. Mais ma femme est d'origine algérienne, j'ai des enfants qui sont à moitié arabes finalement, donc sans folklore, hein, mais entre guillemets, cet orientalisme-là, il est partie prenante de ma vie et même de mon travail. J'ai fait du reste une grosse expo il y a quelques années qui s'appelait Arabitude. Donc ça me semble tout à fait cohérent d'être dans quelque chose qui donne comme ça la place à toutes les cultures qui sont le berceau de notre culture, quoi, finalement. La Méditerranée.
Aujourd'hui, être peintre, c'est choisir quel spectre? Celui de l'art concret, de l'art géométrique, de l'art abstrait, éventuellement de l'art figuratif, parce qu'apparemment c'est votre cas. Ouais.
Aujourd'hui, être peintre, c'est quelque chose qui est probablement exactement la même chose que il y a 30 000 ans dans les grottes, mais c'est toujours combattre. Paradoxalement, c'est combattre l'image, quoi. Et donc, c'est s'atteler à cette sécrétion humaine qui est de sécréter, oui, de générer des images. Donc, la question, c'est toujours la même, c'est comment. Et non pas quoi, parce que quoi, c'est toujours la même chose. C'est l'homme, comme disait Bacon, c'est-à-dire c'est nos passions humaines, quoi, qui sont toujours les mêmes, l'amour, la mort, le sexe, tous les enjeux auxquels on doit faire face tous les matins en se réveillant. Et donc, c'est comment. Donc, je continue de m'inscrire dans une histoire profondément formelle, presque formaliste. J'utilise la figuration, mais je pourrais dire que la figuration, c'est... Je pourrais renverser la phrase de Stella qui disait que l'abstraction peut se permettre le luxe de la figuration. Voilà, je pourrais dire la même chose. Et en l'occurrence, les œuvres que je fais sont pleinement figuratives, mais le problème n'est pas là, quoi. Après, il y a deux questions dans la vôtre, parce que l'autre question, c'est comment faire avec cette époque, ce qui est un autre problème. Alors là, on est dans des enjeux qui sont liés à une histoire, finalement à la modernité, puis à une histoire très récente, et à une histoire contextuelle qui est liée à ce pays, quoi, à la France, qui a, depuis la guerre, qui entretient un rapport très ambigu avec la peinture. Et donc là, pour des gens de ma génération, c'est posé probablement beaucoup plus de difficultés à pouvoir exister, à pouvoir s'imposer en tant que, non pas bête comme un peintre, comme disait Duchamp, mais avec une vraie démarche. Et ça fait partie du travail, on va dire. Et c'est quelque chose, je pense que j'ai réussi maintenant à asseoir. Et la situation, en plus, est en train d'évoluer pour des raisons qui sont liées là, qui sont purement mercantiles. C'est-à-dire que le marché de l'art s'étant mondialisé et la peinture étant toujours ce qu'il soutient, on regarde ça plus attentivement.
Mais vous, qu'est-ce que vous entendez par peinture figurative? Quel est votre champ d'action pour exprimer la peinture figurative? Tout à l'heure, vous avez dit à propos de Stella, mais etc. Or, lui, s'il y a figuration, c'est grâce quand même à cette dimension baroque.
Oui.
Alors vous, par rapport à cette peinture figurative, quelle est votre dimension ?
Qu'est-ce que moi, directement, Pincréache, j'apporte, quoi ? Disons que moi, je pense que je tente de remettre, en tout cas, deux choses, clairement, dans la peinture. La première, c'est que c'est une histoire qui n'est justement pas finie. Et donc, l'invention des formes est infinie, comme que ce soit dans la littérature, la musique, peu importe. C'est-à-dire qu'il est toujours possible d'inventer du nouveau. Et je m'attelle à essayer d'en inventer. Et pour ce faire, je vais puiser dans des répertoires qui est aussi bien justement abstrait, de l'histoire de l'abstraction que de l'histoire de la modernité. Donc ça veut dire prendre des formes qui normalement ne devraient pas être réintégrées dans la peinture figurative, dans laquelle on voit clairement des choses se passer, et tenter de les faire cohabiter.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par peinture figurative ? Autrement dit, qu'est-ce que ces images racontent ? Est-ce qu'il y a des actions ? Est-ce qu'il y a une durée, une narration ? Ce sont des fictions ? Ou c'est de l'hyperréalisme ? Qu'est-ce que c'est ?
Ce ne sont pas des narrations, ce sont des instants finalement mis en scène qui ont pour vocation à se transformer en une espèce de mouvement perpétuel mental, c'est-à-dire que le tableau va... L'image qu'il y a dans le tableau et la manière dont elle est combinée va avoir pour objectif principal de constamment retourner son sens immédiat. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose et la manière dont c'est fait va nous mettre le doute sur ce qui est représenté et ainsi de suite. C'est pour moi qui est le mouvement essentiel de tout tableau, en fait, c'est d'arriver à être renouvelé. Les tableaux qu'on garde sur nos murs sont des tableaux qui arrivent sans cesse à se renouveler devant notre regard. Donc comment faire ça? Ben voilà, avec, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, et, mais cela dit, pour, d'un point de vue comme ça, de premier spectateur, quand on arrive devant un de mes tableaux, j'espère qu'on est saisi par toujours la même chose, c'est-à-dire une émotion qui a trait parfois à la violence, à la pornographie, à ce que ça dit, tout
aux
simplement.
Politiques.
Aux politiques, absolument. Je me souviens, pour La Force de l'art, j'avais fait un très grand tableau dans lequel... J'avais mis énormément d'éléments politiques, mais tourné avec un léger sens du grotesque, ça fait partie aussi du champ de l'art, quoi, de savoir se jouer avec le pouvoir. De toute façon, c'est ça l'art. L'art, il est là pour faire du bien, mais aussi faire du mal à certaines personnes.
Alors, dialogue méditerranéen, est-ce que ça vous inspire, ça? Le fait qu'il y ait des artistes autres que vous, d'autres horizons, et qui travaillent avec d'autres matériaux, d'autres enjeux, comme le fil, le coton, les tissus.
Je vais être peut-être...
La poterie.
Alors, en fait, dans l'absolu, ça va être cruel ce que je veux dire. Dans l'absolu, non. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, finalement, ce sont quelques artistes, parce que tout simplement, leur œuvre m'intéresse, et... Quand ça m'intéresse, je m'en fous complètement d'utilisation de ce avec quoi ça a été fait. Je pense qu'on peut être un très bon artiste avec du charbon ou un très mauvais avec une industrie derrière. Voilà. Donc, c'est pas tant ça qui m'a... En plus, ce ne sont pas des expos comme ça qui me permettent de découvrir des choses. Moi, je passe mon temps comme... Un écrivain lit tout le temps. Moi, je passe mon temps à regarder tout ce qui se fait parce que j'aime l'art. Donc, tout ça, je le connais. Et je ne suis pas surpris quand je suis... d'un coup face à une œuvre que je vois en vrai, mais dont je connaissais l'artiste, ou etc. etc. Donc, ça n'a pas de grande importance pour moi. Finalement, je suis très flatté d'être dans ce genre de truc, qu'on monte mon boulot là-dedans, mais je ne suis pas... je ne les recherche pas, et je pense que ce qui compte à l'arrivée, c'est qu'une expo soit bonne ou pas. Alors, c'est difficile.
Est-ce qu'elle est bonne, celle de Saint-Tropez?
Je pense, en tout cas, très franchement...
Qu'est-ce qu'elle
montre ? Bah, elle montre, par exemple, elle montre très peu de peinture, mais elle montre en fait, grosso modo, beaucoup de sculptures, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui des installations seront des sculptures dans 100 ans, on appellera ça des sculptures. Et donc, bon, donc on est face à une expo, il y a énormément de sculptures. Il y a des sculptures très très bonnes, qui sont disséminées un peu partout. Je trouve que ce qui est à la Citadelle, c'est ce qui marche le mieux, parce que là, on a un environnement qui s'y prête. Bah, quand on arrive, il y a une sculpture de Wang Du qui fonctionne très bien. Il y a un Louis Bourgeois qui est probablement un des meilleurs emplacements qu'on puisse rêver, c'est-à-dire qu'on a le Louis Bourgeois et derrière, bah, on a la mer. Il y a une sculpture de Crétaine qui est très bien placée en plein milieu de la Citadelle elle-même. Je trouve que moi-même, je suis extrêmement bien placé dans les douves, ça me semble assez cohérent.
Vous montrez quoi ?
Je remonte une grande barque, une barque surmontée dans laquelle prennent place trois personnages. Et cette barque est posée en sustentation sur ces rames qui sont en fait en fer forgé, enfin en acier plein, et surmontée d'une voile, la voile étant une peinture représentant des requins. Et les trois personnages, il y a un enfant, une femme et un homme. Enfin, c'est toujours la même. Je dirais Walt Disney, c'est l'histoire de la vie, quoi.
C'est autobiographique.
Autobiographique au sens où finalement on a tous ces mêmes préoccupations. C'est-à-dire que la femme, alors c'est très provocateur parce que la femme est à l'arrière, elle a les jambes ouvertes, c'est un peu une origine du monde. L'homme est à l'avant, il n'a pas de tête, il a juste un bras, ce qui est au passage un petit hommage. Comme pouvait l'autre être un hommage à Courbet, celui-là est un hommage à Rodin. Il a une hache à la main. À ses pieds, il y a un enfant qui est en fait un fœtus dans des toilettes. Alors dit comme ça, ça semble très, 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 très violent, alors qu'en fait, c'est très beau en vrai. Et donc, c'était un clin d'œil à Duchamp. Qu'y a-t-il après le ready-made? Mais il naît encore quelque chose, justement, un enfant, etc. Donc, je monte de manière très littérale. Il est aussi à l'avant du bateau, parce que c'est à la fois le moteur et probablement ce que finalement l'homme protège au-dessus, etc. En fait, c'est une pièce qui, comme je disais tout à l'heure, a vocation à tout le temps changer de sens, si j'ose dire. Et on peut la voir de manière très dure, mais on peut aussi la voir de manière très positive. C'est ambigu, j'adore l'ambiguïté, moi. Voilà. Je pense que l'art est d'autant meilleur qu'il se tient sur le fil du rasoir, quoi.
Est-ce que l'art que vous faites, que vous incarnez, Leïla Mourahid, est-ce que cet art-là vous calme?
Comme j'ai dit, c'est un jeu. Alors, des fois, ça me calme, des fois, ça me rend complètement en rage. Et je ne trouve pas... Je suis sûre en avance qu'il n'y aura pas de solution, mais... Quand même, j'attaque comme une guerrière et je suis sûre que je veux gagner, mais quoi? Je ne sais pas.
Mais vous voulez gagner quoi? L'éternité? La reconnaissance avec un grand R?
Je ne sais pas, peut-être oui, mais ce n'est pas ça vraiment ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est vraiment être en... sentir un peu de repos, un peu de... que quelque chose va bien, quelque chose va dans la direction un peu plus claire.
Alors vous êtes née en Syrie, à Damas, vous vivez à Paris. Vous aimez beaucoup les éléments de l'artisanat, les tissus, la poterie. Vous aimez aussi la photographie. Comment est-ce que vous faites une synthèse de tout ça? De l'ancien, du nouveau, de Damas et de Paris? Où se joue la synthèse, s'il y en a une?
Je pense que c'est plutôt dans la façon où je mélange toutes ces matières, où je vois ces matières. Parce que pour moi, quand je fais la photo, quand je fais la peinture ou n'importe, c'est comment je me laxe. C'est un peu comme la terre pour moi, tout ça. Et je prends ce qui m'intéresse, ce qui me touche, et je le mélange à moi, à ma façon de voir les choses.
Pourquoi avoir choisi Saint-Tropez? Pourquoi avoir dit oui à Saint-Tropez? Dans la mesure où vous le savez, l'exposition porte sur le thème de dialogue méditerranéen. Donc je suppose que vous proposez des œuvres qui alimentent ce dialogue.
Je pense, parce que mon travail, c'est vraiment sur l'univers des femmes, sur les femmes, sur le corps. Et je trouve c'est... il y a quoi de dialoguer dans ce domaine-là.
C'est vrai?
Je pense. Plutôt, je suis sûre.
Bon, alors, qu'est-ce que vous nous apportez que nous ne savons pas sur le corps et sur la femme?
On peut savoir tout et rien. Parce que tout ce qu'on dit, on peut le répéter, mais c'est la façon de le répéter qui est intéressante, ou peut-être la manière de le faire, de le présenter qui est intéressante. On n'ajoute pas grand-chose, normalement. Mais pour moi, c'est un pas en avance parce que j'arrive à dire un peu ce que je veux. Alors pour moi, c'est un pas.
Qu'est-ce que vous voulez exprimer de la femme qui vous touche au plus profond, vous?
C'est plutôt qu'elle existe, qu'elle va exister toujours, mais à sa façon. Malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les censures, malgré tout ce qu'on essaie de casser, elle va exister toujours à sa manière et elle va continuer à faire quelque chose dans la vie.
Là, vous parlez de la femme syrienne.
Je parle de toutes les femmes.
Même de Saint-Tropez?
Même de Saint-Tropez à leur façon, oui. Oui. Parce que c'est l'opposé. Alors, d'un côté, on cache complètement la femme. De l'autre côté, on montre vraiment la femme. Et ça n'est pas vraiment la femme. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est autre chose. Qu'est-ce que moi, je vois de la femme? C'est autre chose.
Comment vous la voyez-vous? Comment est-ce que vous la montrez? Par exemple, à Saint-Tropez.
Ce sont des femmes belles, séduisantes, qui posent beaucoup de questions, qui sont très tristes, très vulnérables, très... D'un côté, ils sont cassés, mais d'un autre, ils ont la force. Et c'est cet équilibre fragile qu'on n'arrive pas à toucher, à comprendre, c'est ça ce qui m'intéresse.
Une femme brisée a encore un corps ?
Bien sûr. Bien sûr. Une femme brisée, c'est avant tout un corps blessé aussi. Moi, je ne vois pas qu'il y a une différence entre le corps et le mental.
Choisi la photographie parce que elle est là, il faut s'en servir, c'est un moyen pour rompre avec l'argile ou rompre avec le tissu.
Non. Je pense que ce que j'ai faisais avant, ce que j'ai fait toujours, je fais une sorte de mélange des matières. Je vois rien séparé. Pour moi, tout est bien mélangé, bien ficelé, bien pour faire créer une œuvre. Et le photo, c'est vraiment une étape très importante pour moi. Normalement, je ne suis pas quelqu'un qui suit une pensée déjà... C'est-à-dire, comment expliquer ? Pour moi, tout vient de l'intérieur et c'est par ça qu'il sort après par la tête. Mais il faut qu'il passe par ma ventre et puis après, il sort d'une autre façon. Et je trouve que la photo... Je les faisais avant, mais ce n'était pas aussi nécessaire que maintenant. Maintenant, c'est une nécessité.
Alors, laquelle ?
De faire le photo.
Quelle est cette nécessité ?
Parce que je fais des sculptures. Mes sculptures, ils sont pas, ce sont des sculptures en sommeil. C'est que quand il épouse le corps qu'il s'éveille. Et c'est là où j'ai besoin vraiment de créer. Et c'est là l'œuvre. C'est toujours éphémère, mais il faut que je fige un instant. Et c'est là où la photo est nécessaire pour moi.
Le corps, il est abstrait ou bien il est très figuratif avec tous ses membres, ses bras, ses mains, sa tête, ses jambes, les deux pieds?
Le corps, c'est plutôt abstrait et en même temps, il est réel, il est existant, il est vrai, et j'ai besoin de toucher, j'ai besoin, et on le sent. Quand on voit mes photos, on sent on a besoin de toucher, on a besoin de quelque chose qui existe, il n'est pas tout à fait abstrait. Il a un côté abstrait parce qu'il nous échappe. Mais ce côté qui est sensuel, c'est ça que moi m'intéresse.
C'est un monde en fusion, un peu comme celui de Giacometti ou de Rodin. Et un corps, pas fusionnel, mais un corps en ébullition. Ou bien au contraire, c'est un corps au repos.
C'est jamais au repos. Pourtant, des fois, on a l'impression que c'est au repos, mais c'est pas vraiment. C'est un corps qui est là, qui dit « je suis là », et on le sent, mais en même temps, on sent qu'il nous échappe. C'est ça ce qui m'intéresse.
Moi, je reviens au mot de dialogue méditerranéen. Là, vous entamez un dialogue avec Damas et avec Saint-Tropez ?
Sûrement. Je suis d'origine syrienne. Je suis une femme d'une... La culture, c'est quelque chose qu'on boit avec le lait, la façon que ma mère me le prend, la façon que... Avec la chaleur, la lumière, la façon qu'elle me touche, tout ça pour moi, il fait partie de la culture. Mais je suis là depuis très longtemps et j'ai choisi d'être là. Alors, c'est déjà un acte pour moi, un acte de communication entre moi et moi-même, avant qu'il soit un dialogue
Vous exposez en ce moment à Damas, en Syrie. C'est très compliqué.
C'est un peu compliqué parce que ce que j'ai fait, il trouve...
Il.
Oui, c'est... Oui, la société. Il aime beaucoup la côté brillant, la côté lisse de mes bijoux. Il adore ça parce que j'apporte quelque chose de rêve. Mais je pense mes photos, il apprécie pas trop parce qu'il comprend que c'est quelque chose qui est un peu... C'est un acte de résistance, un acte... C'est vrai, c'est un acte intime aussi. Mais là aussi, quand je montre l'intime, il n'aime pas trop.
C'est quoi l'intime ?
L'intime, c'est de montrer le corps, de montrer c'est de montrer les femmes d'une façon qu'il n'aime pas qu'on montre, qu'ils soient séduisantes, qu'ils soient belles, qu'ils soient... Maintenant, on a tendance à faire des femmes des masses. On aime bien le voir en masse, on aime bien le voir en des créatures. Mais il faut mieux éviter de voir qu'ils sont belles, qu'ils ont des corps, qu'ils ont des formes. Alors, c'est pas...
La femme n'est pas faite pour l'autre, quoi.
Oui, il faut cacher. Il faut qu'elle soit que pour un seul. Et moi, je trouve que les femmes, elles sont pour elles-mêmes avant qu'elles soient pour les autres. Et c'est à elles de décider. Et malheureusement, ce n'est pas le cas.
C'est important, Saint-Tropez, pour vous ? Enfin, d'exposer à Saint-Tropez dans le cadre de cette exposition avec d'autres artistes ?
Sûrement, c'était très intéressant. Parce que d'abord, l'idée du dialogue méditerranéen, c'était intéressant pour moi de participer à ma façon. Et à la même temps, de voir comment les autres voient les choses. Moi, je vois d'un angle et les autres le voient différemment. Et ça m'intéresse.
Vous exposez à Saint-Tropez, qu'est-ce qui vous intrigue du côté 1 du dialogue et 2 de la Méditerranée pour exposer à Saint-Tropez?
En fait, moi j'ai été invité à participer à cette exposition par la commissaire Suzanne Van Hagen. Ce qui m'a intéressé, c'est le lieu lui-même qu'on me proposait. Bon, alors on peut dire que c'est lié à la Méditerranée, mais pour moi, le travail du... Parce que ça a été presque une commande, en fait. Le travail d'une commande, idéalement, c'est donner un petit peu carte blanche à un artiste, lui proposer une situation et lui donner la possibilité d'inventer une réponse sans le contraindre, quoi, en fait. Donc, moi, j'ai cherché vraiment à faire interagir mon travail avec la situation qu'on me proposait, c'est-à-dire installer un travail à l'extérieur, à Saint-Tropez, dans la citadelle, qui soit visible la journée et la nuit.
Alors, vous travaillez beaucoup avec le cinéma. Est-ce qu'on retrouve les techniques cinématographiques dans l'installation que vous proposez à Saint-Tropez ?
Alors, je travaille beaucoup avec le cinéma, oui. Le cinéma, pour moi, étant comme une réalité aujourd'hui, ça pourrait être autre chose dans 10 ans, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est ce qui définit un paysage mental. Sur place, et ce que je voulais dire aussi, je travaille surtout avec l'idée de fiction, en fait. Alors, sur place, j'ai installé un néon qui fait 60 mètres de long sur un des murs de la citadelle. donc qui est visible à la fois très loin sans qu'on puisse le lire et à la fois lisible sur place. Et le néon, c'est une boucle de mots. C'est night for day, for night, for day, for night, for day. Ça s'appelle Infinite Light. Et c'est lié d'une part à la nuit américaine, day for night en anglais, et à un autre projet que j'avais réalisé pour les Nuits Blanches qui s'appelait Night for Day. Alors, Night for Day, aux Nuits Blanches en 2006, pour moi, c'était le projet de mettre un endroit dans Paris, dans un climat artificiel, une lumière artificielle, c'est-à-dire de mettre un endroit en plein jour pendant la nuit. Et Night et Day for Night, c'est cette technique de cinéma qui est de filmer la journée avec un filtre bleu pour pouvoir, après, donner l'impression qu'on a tourné de nuit, quoi, en fait. Donc j'ai pris ces deux notions qui s'enchaînent et c'est un peu l'idée qu'on serait en permanence finalement dans une lumière artificielle et inversée.
Et la lumière est de quelle couleur? Est-ce qu'elle est plaquée contre le ciel?
Le néon est sur un mur de la citadelle, donc un mur ancien, et la couleur du néon, c'est la couleur du bleu qu'on utilise pour le filtre pour les caméras.
Alors, vous venez de dire que vous aimez raconter des histoires. Alors, quelle est cette histoire racontée par l'installation? Est-ce qu'elle évoque une durée, par exemple? Ou bien ce n'est qu'un moment ou une succession de moments que vous proposez?
Moi, souvent, en tant que spectateur, je ne profite pas beaucoup de mon travail. C'est-à-dire que je l'installe et je vais en installer un autre. Là, j'ai eu un petit peu plus de temps pour le photographier. Et qui a d'un côté cet énorme mur de la citadelle qui fait à peu près 15 mètres de haut, je pense. Et de l'autre côté, il y a encore un autre mur. Donc il y a une espèce d'entre-deux. Il y a rien, c'est une espèce de passage comme ça qu'on peut faire le tour de la citadelle par l'extérieur, on va dire, quoi. Et pour moi, c'était un moment assez... assez intéressant parce qu'il y avait une espèce d'entre-deux. Parce que déjà, on est face à... installer un travail sur un bâtiment ancien, c'est déjà une espèce de voyage dans le temps, en fait. C'est-à-dire plaquer quelque chose de contemporain sur un mur qui a plusieurs siècles, c'est déjà une espèce de contraste comme ça, temporel, qui moi m'intéresse, quoi. Après, dans la durée, c'est vrai que par rapport à mes films dans lesquels j'essaye d'installer une ambiance hypnotique, qui sont un peu des peintures en mouvement, le néon, c'est un rapport plus immédiat. Mais c'est plutôt mental, c'est-à-dire s'il y a un rapport au temps, c'est celui qu'évoque le sens des mots et le titre de l'œuvre, c'est-à-dire Infinite Light, une lumière artificielle qui ne s'arrêterait jamais. Mais après, dans le rapport direct à l'œuvre, je pense que c'est une œuvre dont on profite en la voyant à plusieurs moments dans la journée. C'est-à-dire que le mode d'apparition du travail est lié au sens des mots. Le néon est allumé en permanence et petit à petit, la lumière apparaît avec la lumière qui baisse du jour.
Alors, par exemple, vous aimez les ambiances surréelles, d'hallucinations sonores ou visuelles. Est-ce que cette installation est muette ou bien est-ce qu'elle émet des sons?
Non, elle est muette, en fait, à part le bruit des pans qui...
L'environnement.
Oui, voilà. Ouais, ça dépend. J'ai fait des films qui étaient muets également et parfois ça installe une tension... supplémentaire, quoi, puisque...
Mais vos films que vous faites, est-ce que vous les projetez sur des murs, un peu à l'image de la muraille de Saint-Tropez? Ou bien un peu comme Ange Detia l'a fait à Toulouse en projetant sur le mur de l'hôpital, de l'Hôtel Dieu?
Alors, c'est encore jamais arrivé. Moi, ce qui m'a pour l'instant beaucoup occupé... par rapport aux films que je pouvais produire, qui était en fait qu'une seule partie des dispositifs que j'essayais de mettre en place, c'est à chaque fois de reconstruire l'architecture, de reconstruire une manière qui soit liée au contenu des films, de les présenter. Donc ça a toujours été un environnement artificiel avec des jeux de matière, des dimensions étudiées, une manière aussi de voir les films, de pouvoir passer derrière l'image avec des rétroprojections et des filtres, d'avoir la possibilité de voir l'image des deux côtés, de construire des cabines pour diffuser des films à l'extérieur de ces cabines. Au Palais de Tokyo, par exemple, j'avais installé un nuage qu'on voyait défiler dans les rues de Paris, qui était au fond d'un couloir de 15 mètres. Et c'était pour moi une manière aussi, dès le départ, d'éviter ces boîtes de vidéoprojection qu'on voit tout le temps et que moi, je trouve, par rapport à mon travail, pas intéressante, parce que ce qui m'intéresse, c'est installer des images dans des espaces d'exposition et pas essayer de refaire un mini-cinéma qui marche pas, en fait.
Alors, vous seriez dans la superposition des images.
De quelles images ?
Des vôtres qui s'additionnent aux images déjà ou d'une galerie ou d'un musée.
Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à maîtriser l'image finale du travail qui effectivement comprend l'environnement que je vais essayer de modifier et l'image que je vais y projeter. D'une manière générale, c'est l'image que j'arrive à créer même... Parce que, en fait, dans l'expo de Saint-Tropez, il y a une autre œuvre... qui est à l'intérieur de la citadelle, qui est aussi en extérieur, et qui est une sphère géodésique, avec aussi une lumière qu'on ne voit pas pendant la journée, qui apparaît progressivement à l'intérieur de cette sphère. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'objet lui-même qui m'intéressait, mais c'était vraiment l'image de la situation de cet objet dans l'environnement et d'autres éléments que j'ai pu rajouter autour.
Alors, en quoi l'installation tropézienne modifie, disons, le paysage ou l'environnement urbain ? Est-ce qu'elle elle s'ingénie à apporter quelque chose en plus ? Ou en moins ?
Vous parlez de l'exposition de manière générale ?
Non, je parle de l'installation sur la muraille de Saint-Tropez.
Moi, il y a un principe qui m'intéresse d'une manière assez large, c'est celui de devoir se rapprocher pour comprendre les choses, en fait. C'est-à-dire, ce que j'aime bien, c'est dans un travail, dans une œuvre, c'est qu'il y ait une espèce de première lecture que moi, j'essaye d'ailleurs assez séduisante dans différentes pièces pour recouvrir soit un sens qui apparaît, soit un lien qu'on ne pouvait pas imaginer au départ. Donc, ce que ça peut modifier, c'est que quand on est sur le port, on voit une tache bleue au loin, en hauteur, et que ça donne envie de s'en approcher pour pouvoir finalement lire ces mots qui évoquent la tache bleue qu'on a vue, quoi, en fait, de par le sens des mots. Donc voilà, c'est créer une espèce d'interrogation. Moi, j'aime bien installer des espèces d'ambiance... qui soit qui pose question, qui interroge. J'avais par exemple installé un flash, le flash le plus puissant qu'on puisse trouver, deux flashs de 70 000 volts sur la mairie du 6e pendant une exposition et qui se déclenchait de manière irrégulière et qui était vraiment très fort et qui donnait l'impression que le haut des immeubles se retrouvait en plein jour. Mais ça durait si peu de temps que au moment où on s'en rendait compte, ça avait déjà disparu. Et voilà, c'est ce genre de principes qu'on peut retrouver dans différents travaux que j'ai pu faire. La véritable image qui m'intéresse, c'est celle qui est dans le cerveau du spectateur, c'est-à-dire l'aller-retour qui s'est produit entre l'image qui lui est apparue et ce qu'il a pu y projeter. Il y a une de mes vidéos, celle dont je parlais avant, celle avec le nuage qui s'appelle Projection. Je m'intéresse beaucoup aux projections mentales et à l'idée que mon travail ne serait qu'une surface de projection. Et alors, il y a la vidéo projection au sens premier, et puis la projection mentale.
Qu'est-ce que vous entendez par image mentale à propos d'une vidéo ? Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une image mentale et qu'est-ce qu'une image mentale projetée sur un écran de vidéo ?
Alors, au départ, quand j'ai commencé à utiliser des images en mouvement, ce qui m'intéressait, c'est aussi de considérer à un moment donné l'image comme un simple signal électrique, quoi, en fait. C'est-à-dire de considérer aussi l'image, pas seulement pour l'information qu'elle pouvait contenir, mais aussi pour l'état dans lequel elle mettait la personne qui le regardait. Par exemple, au cinéma, quand j'y vais, j'aime bien ces moments de rêve éveillé qu'on peut avoir pendant un film, où on se retrouve à penser à totalement autre chose. Et je trouve que souvent, les bons films, à mon sens, arrivent à produire ce genre d'état. Donc l'image mentale, ce serait l'addition de l'image projetée et de l'image projetée physiquement et de l'image projetée par le spectateur sur cette image. Encore faut-il que cette image puisse le permettre. Or, aujourd'hui, bon nombre soit d'œuvres qu'on puisse voir, soit de films de fiction sont tellement balisés et racontent tellement la même chose de 10 manières différentes en même temps qu'on n'a plus le temps de projeter quoi que ce soit puisque on nous assomme d'informations. Et pour moi, les œuvres qui m'intéressent le plus sont celles qui restent ouvertes et qui permettent cette projection.
La narration dont vous parlez est faite de quoi ? Elle est faite de lumière, de mots, elle n'est pas faite de personnages, elle n'est pas faite de situations psychologiques, elle n'est pas faite de crimes ou d'étreintes.
Moi, je ne parle pas vraiment de narration, je parle plutôt de fiction. Je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'art en train de se faire, c'est l'idée qu'il y a plusieurs morceaux à rassembler. Quoi. En fait, on découvre l'œuvre d'un artiste, on en voit une autre dans une autre situation, on tombe sur un texte, petit à petit, une espèce de collage comme ça, qui fait que on arrive à inventer une fiction, en fait. Il y a une image du travail un peu général qui se met en place. Voilà, s'il y a une narration, c'est dans le collage de ces éléments successifs, mais jamais vraiment dans une seule œuvre.
Donc fiction, mais sans personnage.
Bah après, ça dépend des œuvres. Moi, j'ai fait un film qui s'appelait « Tout est possible », qui était projeté sous la forme d'une installation. C'était une caméra qui volait au-dessus d'un personnage qui se promenait à la tombée de la nuit à Casablanca. Et le point de vue, c'était comme si on arrivait à entendre ses pensées, quoi, en fait. Donc là, il était vraiment au premier plan. Ça dépend des œuvres, en fait.
Myriam Boudherbala, vous exposez des photographies à Saint-Tropez dans le cadre d'une exposition qui s'intitule « Dialogue méditerranéen ». C'est-à-dire que vous êtes né en Tunisie, à Tunis, et vous vivez en France. Alors comment est-ce que vous essayez de faire une synthèse des deux civilisations ?
Je vis en fait à cheval entre Tunis et Paris. Et en ce moment, je suis plus souvent à Tunis, parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à faire là-bas. Ici, il y avait une forme de saturation au niveau artistique, dans laquelle je me trouvais un peu perdue. Et en rentrant à Tunis il y a 5 ans, donc maintenant je vis plutôt à Tunis et je viens régulièrement à Paris pour m'alimenter, on va dire, de stress et de culture. Et à Tunis, j'ai découvert que c'était un no man's land artistique extraordinaire où on pouvait fabriquer, monter des expositions, se bagarrer contre les institutions et être dans le faire, même si c'était difficile. Donc ça m'a permis de monter 2 expositions d'art contemporain, assez inédites, puisqu'on ne montrait pas encore certaines formes d'expression artistique comme la photo ou la vidéo. Et puis il y a eu cette exposition à Saint-Tropez.
Alors vous montrez la femme en Tunisie, vous montrez la femme avec ses voiles, voilée.
Oui, enfin, je ne suis pas tout à fait voilée sur les photos, je suis même plutôt dénudée. Oui, je m'interroge beaucoup sur la question de la femme, depuis toujours, dans le monde arabe, parce que je pense que c'est une question pertinente pour nous, les femmes du monde arabe, de rester extrêmement vigilante, surtout dans les temps qui courent, où je trouve que on a acquis des libertés avec le premier président de la République, Bourguiba, et bien sûr on tient tout à conserver nos libertés, surtout qu'on a grandi avec ça, donc aujourd'hui c'est consécutif de ce qu'on est, et un retour en arrière est impossible, voilà. Et non, je ne suis pas voilée sur les photos, c'est tout à fait le contraire. Je dénonce plutôt, parce que le voile pour moi, bon, c'est une aberration quelque part. C'est quelque chose de spirituel. Quand on en parle dans le Coran, ce n'est pas vraiment un voile. En fait, c'est un tissu qui est devant une porte et qui empêche les hommes de la rue de voir les femmes du prophète. Voilà. Et... Donc il n'y a jamais eu un tissu jeté sur pour obstruer un regard, un visage, une expression, une vie finalement. Et comme dit Adonis, voiler la femme, c'est voiler la vie. Bon, je parle de la Tunisie parce que c'est aussi important et ça explique mon travail. Et beaucoup de femmes s'insurgent contre effectivement ce regard que vous, les médias, vous portez sur nous. Souvent, vous nous cloisonnez dans quelque chose... Dans un monde un peu fermé, comme si de là-bas, on était prisonnier finalement de notre gouvernement, de beaucoup de choses, et que du coup, ben, on ne faisait pas grand-chose. Alors que c'est tout le contraire, on est dans une résistance rhizomatique, on fait tout pour s'en sortir, surtout les femmes qui sont, je trouve, les meilleures artistes là-bas. Et bon, voilà, c'est pour ça que moi, en tant que femme, j'ai décidé de monter des expositions et je m'exprime physiquement dans mon art. Mais je suis aussi peintre, j'ai une passion pour la peinture abstraite et la peinture figurative. Enfin, toutes les formes d'art m'intéressent.
Mais revenons au statut de la femme. Quel est le statut de la femme ? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de voile chez vous, je me demande s'il y a quand même, il n'y en a pas comme quelques-uns.
Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voile. Justement, je m'inquiète parce que j'en vois de plus en plus. Donc ces fameux voiles qui arrivent du Moyen-Orient, qui sont ces hijabs, où elles ne sont pas voilées d'ailleurs. On voit leur visage, mais on ne voit pas leurs cheveux. On dirait des momies. Et ce n'est pas vraiment le voile en lui-même, c'est tout ce que ça véhicule comme interdit, tout ce qu'elles s'interdisent aujourd'hui. Le pays n'était pas comme ça avant. Et il y a une forme de régression que... Ben, c'est pas compliqué, depuis le 11 septembre, il y a eu une espèce de révolte identitaire. Je trouve plus que c'est une révolte identitaire du monde arabe qui s'est dit on va montrer des signes extérieurs ostentatoires de notre culture, de notre religion. C'est plus ça. Moi, je pense que c'est plus un phénomène de mode chez la plupart des femmes. Et par contre, effectivement, chez les hommes et plus profondément, c'est effectivement un phénomène politique, plus qu'un phénomène religieux.
Mais est-ce que le voile, l'utilisation du voile, n'a pas aussi un autre effet qui serait le prolongement de la peau ?
Complètement. Oui, vous avez raison. C'est marrant que vous en parliez parce que je suis en train de préparer une vidéo où effectivement, le voile est comme une seconde peau. De laquelle j'essaye, comme dans une chrysalide, de m'extirper. Voilà. Donc, en fait, c'est à voir, puisque c'est en image. Et je ne sais pas quoi dire sur le voile. C'est un sujet qui me dérange beaucoup, parce que je crois qu'on en a fait le tour, et que ce n'est pas ça qui est plus important.
Le plus important, c'est quoi ? C'est la peau ? C'est le saignement ? C'est la cicatrice ?
Oui, oui, c'est la peau, c'est l'épiderme, c'est tout ce qu'on cache. Pour moi, la peau, c'est le signe de la vie. Mais le fait de me montrer nue, par exemple, sur les photos, en sachant que ça allait provoquer des problèmes, et en même temps, ça n'en a pas provoqué, comme quoi on se fait beaucoup d'illusions sur ce que l'autre pense de nous. Et ce que l'autre pense de notre culture, est-ce que ceux qui sont d'ici pensent de notre culture ? On a hérité ça effectivement du colonialisme, C'est-à-dire qu'on nous a présentés là-bas comme des femmes dénudées, alors que nous ne le sommes jamais, nous sommes habillées comme tout le monde. Et de tout ça, on a véhiculé une image effectivement assez dégradante qui continue jusqu'à aujourd'hui, quand on présente les prisonniers irakiens dans les prisons d'Abu Ghraib, nus comme des animaux. Finalement, pour moi, c'est le prolongement de ces images orientalistes.
Je pense que l'art est d'autant meilleur qu'il se tient sur le fil du rasoir. Quoi.
Stéphane Pincriage manque un mot. Il manque la dimension d'un mot qui donnerait toute la dimension de votre travail. C'est le mot de gourmand et de gourmandise.
Je pourrais le doubler d'un autre mot qui est omnivore. C'est-à-dire que moi, je me nourris absolument de tout et... Oui, c'est pas mal que vous disiez ça, parce que ça, en fait, ça contient un autre truc qui est très très important pour moi, c'est la dimension de plaisir. C'est-à-dire, même si certaines œuvres que je fais peuvent être très violentes ou morbides, il n'y a pas de pathos dans mon rapport à l'art. C'est-à-dire, j'ai un rapport à l'art assez dionysiaque, plein de bonheur, et si je crée, c'est parce que je tends vers le bonheur. Ça, c'est très important. D'où, ouais, effectivement, cette gourmandise, mais qui apparaît d'ailleurs vraiment sur énormément de tableaux, quoi. Aussi bien dans la couleur que dans la générosité des formes, quoi.
Mais est-ce que l'art est encore une source d'expérimentation sensuelle ? Est-ce que cette expérimentation sensuelle ne se fait pas tout simplement dans la vie d'abord ? Et pourquoi se servir de l'art ?
Ah oui, non, l'expérimentation
sensuelle. Vous ne seriez pas dans la répétition ?
Dans la projection, d'ailleurs, il y a des séries de tableaux que j'ai faites qui s'appellent des sublimations. Mais la vie, évidemment, moi, c'est-à-dire que je ne vis pas à travers l'art. C'est probablement l'art qui vit à travers moi. Je suis un jouisseur, comme beaucoup. Enfin, je profite de la vie. Et l'art est un réceptacle. La vie est le catalyseur et l'art est ce qu'il en reste, finalement, quoi, dans la vie. Alors, il se trouve que je suis dans une période où je suis plutôt heureux. Donc les choses sortent... L'art s'emporte d'autant mieux, mais je ne peux pas préjuger de mon futur.
Les tableaux, par exemple, que vous ne montrez pas à Saint-Tropez, mais que vous montrez à la galerie de Villepoix, sont quand même différents. J'ai lâché tout à l'heure le mot de baroque à propos de Stella. C'est un mot qui pourrait très bien vous convenir.
C'est un mot qui me convient parfaitement, ouais, bien sûr. Les tableaux sont... D'abord, c'est difficile de comparer une sculpture à un tableau, mais ce que disent mes tableaux, en tout cas, est probablement la même chose. Là, en l'occurrence, ce sont des séries de tableaux qui ont pour principe de départ des souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance, en partant, même si c'est... Évidemment, virtuellement, je n'en ai pas, comme tout le monde, mais du nouveau-né jusqu'à l'âge adulte, il y a un tableau notamment qui s'appelle « Première fois », qui est le tableau de l'initiation sexuelle, finalement. Ensuite, il y a la découverte des femmes. L'expo finit sur la mort, littéralement. Donc, il n'y a pas de narration. Chaque tableau ne contient aucune narration, mais c'est une espèce de survol comme ça de ce qu'a été ma vie, de ce qu'elle est actuellement et de peut-être ce qu'elle sera, avec l'idée qu'on partage tous ces affects vis-à-vis de... On a tous cette manière d'avoir des souvenirs qui ont remplacé la réalité et donc littéralement de les sublimer. Donc ça fait des tableaux qui, j'espère, touchent tout le monde parce qu'on oublie qu'il ne s'agit pas de moi, en fait, évidemment. J'ai essayé de faire ce qui se passe dans... Quel est le processus mental que nous subissons tous à travers nos souvenirs et comment essayer de transmettre ça, voilà. Alors ça prend des dimensions baroques parce que les moyens que j'utilise pour le montrer... sont justement gourmands et sans tabou, et utilisent tout, aussi bien.
Et est-ce que cette gourmandise s'alimente de la vidéo, de toutes les images, de la photographie ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du photomontage à la Anna Hutch ?
Moi, je m'alimente de tout, c'est-à-dire que je suis... je regarde, par exemple, un ou deux films par jour, de toute façon. C'est-à-dire que j'ai besoin d'images. Je dévore les images, que ce soit dans les magazines, très peu la télé, mais le cinéma énormément. Je pense que c'est l'autre chose qui me passionne le plus avec la peinture, c'est le cinéma. En tant que spectateur, et non pas sans aucune approche intellectuelle d'ailleurs, vraiment en tant que drogué d'images. Et il y a effectivement dans l'exposition des tableaux qui ont été faits à partir de collages photographiques, mais là qui concernent uniquement des femmes et qui ont été ensuite imprimés sur toile, agrandis et que j'ai transformés de manière à les ramener dans un champ du réel. Parce que ça, c'est un autre débat, mais la photographie est pour moi à la fois un des grands problèmes de l'art contemporain et peut-être un début de solution pour le futur. Mais si tant est qu'on arrive à violer cette jeune fille qui est très très jeune et qui pour l'instant depuis son origine a très peu évolué finalement, eu égard aux 20 000 ans justement comme je disais d'évolution picturale avec la peinture quoi.
On est là dans la prolifération, ouais. C'est presque de la naissance instantanée.
Ça prolifère, mais ça prolifère de plusieurs manières. Ça prolifère en termes d'idées, c'est-à-dire qu'une idée en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre, qu'on inverse, qu'on bouleverse, etc. Et en termes de production, parce que quand je travaille, énormément de choses sortent, et ensuite je fais un choix sur ce qui va être montré, sachant que une prolifération n'a d'intérêt qu'à partir du moment où après elle est montrée, sinon dans son ordre de prolifération, du moins dans un ordre choisi, quoi. D'où aussi l'importance de faire des expositions, non pas simplement pour sa propre gloire, mais pour que l'œuvre soit vue. Et arriver à montrer les processus de travail et cette prolifération, ce chaos, mais qui finalement est organisé, au sens grec, quoi, ça fait aussi partie de notre boulot, quoi.
Qu'est-ce qu'il a, Frank Stella ? Il vous a totalement sonné ?
Je cite beaucoup Frank Stella parce que pour moi, c'est vraiment un des très très grands artistes, toujours vivant d'ailleurs. Mais,
mais pourquoi il est grand dans la mesure où il est plusieurs ?
C'est vous répondez à la question en la posant. Il est justement grand parce qu'il est plusieurs, exactement comme Picasso. Et moi, c'est ce que j'essaie aussi de faire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les artistes d'une chose, nous sommes les artistes d'un événement humain qui donc a le choix, c'est même le propre de la conscience, et qui donc peut changer. Et j'adore cette idée de pouvoir se refonder régulièrement.
Non, mais passer, par exemple, d'un labyrinthe dessiné à la craie blanche sur fond noir, passer de ce labyrinthe de toute beauté,
absolument,
très simple, à aujourd'hui ces sculptures monumentales baroques, ouais, de couleurs, c'est assez inouï.
Et en même temps, c'est d'une logique absolument implacable. Faut pas oublier que quand il fait les Black Stripes, d'Ifane Or et tout, qui sont des tableaux que moi, devant lesquels, très honnêtement, je me suis mis à genoux, étant pourtant foncièrement du côté de Picasso, c'est-à-dire vraiment avec un désir de figuration, etc., parce qu'il est le premier à avoir compris que l'art géométrique allait dans le mur par les machines. Et il a remis la main. Ces tableaux nous bouleversent parce que ce sont des lignes qui sont faites à la main. Et je pense que c'est une révolution. Et à un moment donné, se crée ce clivage. Lui appelle ça le minimalisme. En plus, il donne après à tous ses suiveurs du grain à moudre. Et évidemment, comme tout génie, il n'a pas du tout envie d'en rester là. Il veut continuer à explorer ce que peut faire la main. C'est normal qu'étant en ayant littéralement créé des espaces en deux dimensions, il ait eu envie de créer ces mêmes espaces avec cette même main en trois dimensions. Après, ce sont les logiques d'inversion formelle qui jouent toujours en art, c'est-à-dire qu'on a fait du noir et du blanc, on va faire de la couleur, etc. etc. Bon, tout ça me semble d'une logique implacable, mais il explique très bien d'ailleurs comment lui... c'est lui qui le dit, et d'ailleurs, finalement, arrivant dans une période qui correspondrait au maniérisme post-Michel-Ange en Italie, qu'est-ce qui se passe? Il faut un Caravage. Et donc lui, il se met dans la peau du Caravage en provoquant, en réintroduisant de l'espace et de la couleur. Et tout ça, évidemment, dans une dimension abstraite. C'est là où il est. C'est pour ça que je le cite d'ailleurs, parce que c'est un archétype de la manière dont on devrait nous regarder dans ce pays, en France, maintenant, parce que les Anglo-Saxons et les Allemands ont un rapport beaucoup plus décomplexé à ça. L'art contemporain est en train de se faire, y compris la peinture figurative. Moi, je m'inscris là-dedans, voilà, dans cette histoire.
Peinture fraîche, dialogue méditerranéen à Saint-Tropez. Site internet www.franceculture.com et vous tapez peinture fraîche. Coordination Anne de Biran. Réalisation Marie-Dominique Bougot, Clotilde Pivin. La semaine prochaine, rétrospective Robert Gobert à Bâle au Scholager et rencontre de l'artiste à New York dans son studio. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture.